Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Les difficultés et les épreuves ne manquent pas dans la vie, mais la Bible apporte la sagesse et l'espérance nécessaires pour les surmonter sereinement.
Aujourd'hui, Yann et Robert reprennent leur discussion sur la vie d'Abraham. Ils vont notamment parler d'une épreuve qu'il a dû assumer la plus grande partie de sa vie. Que pouvons-nous en apprendre?
Robert, quel est votre point de départ aujourd'hui?
Nous allons parler de quelque chose qui devait être un souci important tout au long de la vie d'Abraham et de sa femme Saraï. Et certains de nos auditeurs pourraient sans doute s'identifier à leur situation.
Et de quoi s'agit-il?
Nous lisons dans Genèse chapitre 11, verset 30, que Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Abraham a rencontré de nombreuses difficultés dans sa vie, mais cette stérilité constituait une épreuve qu'Abraham et sa femme devaient vivre au quotidien, une douleur toujours présente. Dieu dit à Abraham, alors âgé de 75 ans, qu'il aurait un jour un fils. Cette promesse s'est accomplie quand Abraham eut atteint 100 ans. Nous pouvons comprendre à travers les Écritures qu'Abraham a porté un lourd fardeau tout au long de cette période d'attente. Par exemple, en Genèse chapitre 15, verset 2, Abraham se lamente. « Je m'en vais sans enfant ».
J'ai effectivement connu des couples affligés de ce problème, mais j'ai constaté la profondeur de leur peine. Comment expliquez-vous que leur souffrance soit si lourde?
Je pense qu'il existe au moins trois raisons. D'abord, nous lisons en Genèse chapitre 1 que les hommes et les femmes ont été créés en vue de se multiplier pour engendrer des enfants. Lorsqu'un couple n'y arrive pas, les époux ont l'impression que quelque chose leur manque. Ils ont le sentiment d'être exclus de ce qui est normal et naturel, de ce qui est, après tout, le dessein de Dieu. Ensuite, s'ajoute à cela un problème économique.
Que voulez-vous dire?
À l'époque d'Abraham, tout comme dans beaucoup de pays aujourd'hui, les personnes âgées avaient besoin d'enfants qui pourraient s'occuper d'eux dans leur vieillesse. Lorsqu'on ne peut plus travailler et que l'on se trouve sans enfants pour subvenir à ses besoins, cela représente une véritable catastrophe. Enfin, le regard de la société n'est pas toujours favorable envers les couples qui n'ont pas d'enfants.
Oui, je le sais, mais quelle en est la raison?
Il y a certaines personnes qui pensent encore que la stérilité représente une malédiction ou une punition venant de Dieu ou des dieux. Certains se demandent, mais qu'ont-ils fait pour mériter ça? Quel secret caché a bien pu leur attirer ce châtiment? D'autres vont peut-être dire que cette condition est le résultat d'un sortilège ou de quelque chose de ce genre. Ainsi, les gens commencent à mépriser le couple en question, qui se sent par la suite exclu et rejeté. Abraham a probablement rencontré ces attitudes, et je sais qu'elles existent encore de nos jours.
Pourtant, cette incompréhension à l'égard de la stérilité ne peut qu'ajouter souffrance sur souffrance. La Bible soutient-elle l'idée que la stérilité est un châtiment pour le péché?
Non, pas du tout. Prenons l'exemple d'Abraham. La Bible ne dit nulle part que leur condition était due à une faute passée, à une malédiction. Abraham n'est pas rejeté par Dieu. Au contraire, il a été choisi par Dieu pour recevoir des promesses merveilleuses. Il occupe une place unique dans les desseins de Dieu. Si quelqu'un se trouve devant une difficulté importante, telle que la stérilité, la Bible ne nous donne pas le droit de dire que cela vient d'une faute quelconque. Il n'existe pas forcément un rapport de cause à effet.
Que diriez-vous alors à toute personne stérile qui peut-être nous écoute actuellement?
La stérilité est un fardeau lourd à porter. Mais elle est deux fois plus lourde si l'on se sent coupable ou responsable quelque part. Si l'on pense que cela nous tombe dessus à cause d'une faute, il faut se défaire de cette idée. Vous n'êtes pas pire que les autres, ou maudit si vous êtes stérile. Par ailleurs, nous voyons que la stérilité d'Abraham et de Saraï ne les a pas empêchés d'être aimés de Dieu et d'occuper une place très privilégiée dans l'histoire.
Nous savons que par la suite, Abraham et Saraï ont réussi à avoir un enfant dans leur vieillesse. Dieu leur en avait fait la promesse et nous pouvons supposer que pour tenir cette promesse, il accomplit un miracle. Avec Dieu, ce qui est impossible devient possible. Ce récit peut-il donc susciter de l'espoir pour ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants aujourd'hui? Est-ce que par la prière et la foi, nous pouvons aujourd'hui voir la main de Dieu agir de façon miraculeuse?
Oui, Dieu peut agir dans nos vies. Rien ne lui est impossible. Il peut accorder des enfants à ceux qui n'en ont pas. Toutefois, il faut être prudent.
Pourquoi dites-vous cela?
Le fait que Dieu ait fait cette promesse à Abraham ne signifie pas qu'il fait la même promesse à toute personne stérile. Abraham avait une place unique dans les desseins de Dieu, et l'intervention miraculeuse de l'Éternel dans sa vie pour lui donner un fils contre toute attente humaine représente une preuve que toutes les autres promesses faites par l'Éternel à Abraham s'accompliront dans le temps. Évidemment, nous ne devons pas nous inscrire dans une telle perspective. Nous ne devons pas dire « Si vous avez la foi, l'Éternel vous accordera un enfant ». Il est même dangereux de tenir de pareils propos.
Pour quelle raison?
Parce que si par la suite le couple en question n'a toujours pas d'enfant, il peut penser avoir une foi défaillante, ou bien d'autres peuvent dire que Dieu ne le bénit pas à cause d'un péché caché. C'est entrer une fois de plus dans un cercle vicieux de fausse culpabilité. Les personnes qui se trouvent dans cette épreuve n'ont pas besoin d'être davantage accablées, mais de trouver un réconfort, d'être soutenues.
Donc, ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants peuvent prier l'Éternel de leur accorder la grâce d'en avoir un. Mais ils doivent prier avec humilité et accepter la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit.
Oui, et en cela, nous pouvons apprendre de l'exemple d'Abraham. Pendant les longues années de souffrance et d'attente, Abraham est demeuré fidèle à Dieu. Il n'aimait sûrement pas sa situation, il devait être perplexe, mais ne s'est pas éloigné de Dieu. Les difficultés mettent notre foi à l'épreuve. Nous pouvons en vouloir à Dieu, le blâmer, mais ses attitudes nous sépareront de lui et nous nous priverons ainsi des bienfaits d'un Dieu qui veut nous secourir. Quelle que soit notre épreuve, il vaut mieux s'accrocher par la foi à l'Éternel qui demeure fidèle, au lieu de lâcher prise pour tomber dans un complet désespoir.
Pour conclure aujourd'hui, comment voudriez-vous résumer les leçons à retenir?
Je voudrais considérer trois lignes de fidélité que l'on doit chercher dans le cas précis de la stérilité, mais qui s'appliquent en fait à toute épreuve. D'abord, Dieu est fidèle. Il comprenait la douleur et la perplexité d'Abraham, et chaque fois que sa foi s'affaiblit, Dieu venait le secourir, le rassurer, le relever. Il le fera pour nous aussi. Ensuite, Abraham était fidèle à Dieu, même si parfois il ne voyait pas d'issue à sa souffrance. Même quand sa foi chancelait, il n'a jamais abandonné Dieu. Enfin, Abraham restait fidèle à sa femme. Certains trouvent dans la stérilité de leur conjoint ou conjointe un bon motif pour le quitter, l'abandonner. Abraham fait preuve d'un amour fidèle envers Saraï, sa femme. Il ne la renvoie pas, et nous non plus, nous ne devons pas renoncer à nos vœux de mariage pour motif de stérilité.
Il est vrai qu'un problème de stérilité peut semer la division entre un homme et une femme, mais au lieu de s'accuser mutuellement, les couples concernés doivent chercher à se soutenir afin de surmonter cette épreuve. Il ne faut pas non plus céder à la tentation d'accuser Dieu. Ce serait s'éloigner de lui et de son aide.
Les gens peuvent se brouiller pour de nombreuses raisons. Les bonnes relations humaines sont difficiles à maintenir, que ce soit dans la famille ou en dehors. Lorsqu'il y a mésentente, il y a besoin de réconciliation. C'est le sujet que Jean-Yves abordera lors de sa méditation biblique.
D'abord, je vais lire quelques versets de la Bible trouvés dans la deuxième épître de Paul à l'église de Corinthe, chapitre 5 et versets 18 à 20. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. Dieu lui-même vous lance un appel, au nom du Christ, accepter d'être réconcilié avec Dieu.
Combien il est triste de constater que des hommes ont du mal à s'entendre. Combien de familles restent marquées parce qu'un jour un père ou une mère, un fils ou une fille, a décidé de quitter le foyer pour ne plus jamais revenir, pour ne plus jamais donner signe de vie. Et cela à cause d'une mésentente, de disputes vécues au cours des années, de conflits que l'on ne peut plus supporter. Oui, les hommes ont du mal à s'entendre, et parfois cette situation aboutit à une rupture totale et irréparable de relations personnelles. Ces déchirements touchent non seulement les familles, mais aussi les amitiés, les voisins et les collègues sur leur lieu de travail. Sur un tout autre plan, nous constatons que des gens de tribus différentes, de religions différentes ou bien de pays différents s'acharnent les uns contre les autres et entretiennent la haine et la rancœur. Que de souffrances et de malheurs sont engendrés par ces relations brisées. Sentiments d'amertume, de culpabilité, de solitude par exemple. Préoccupés peut-être par les relations humaines et les soucis du quotidien, chacun et chacune souffre d'une toute autre rupture de relation dont nous ignorons souvent la véritable portée. Il s'agit de notre relation avec Dieu. L'origine du problème remonte à l'époque des tout premiers hommes, Adam et Ève, qui ont choisi de briser l'amitié qui les liait à Dieu en refusant de respecter ses recommandations. Ils mangèrent du fruit de l'arbre interdit, croyant tout gagner. Mais bien au contraire, ils ont perdu le plus important, l'essentiel, le privilège de pouvoir s'entretenir avec Dieu. Aujourd'hui, nous agissons de même. En voulant suivre le chemin qui nous semble bon, nous tournons effectivement le dos à Dieu et nous héritons ainsi de la même condamnation, celle qui est tombée sur Adam et Ève, celle de devoir marcher seul, loin de la face de Dieu, celle de marcher vers la mort, notre destin universel. Que ce soit sur le plan personnel, sur le plan national et international, ou bien sur le plan spirituel, il y a un besoin criant de réconciliation. Qu'est-ce donc la réconciliation ? Selon le dictionnaire, c'est le fait de mettre en accord et en harmonie des personnes qui étaient brouillées. Qu'il est beau lorsque dans une famille, accablée et séparée par des disputes et divisions, chacun va vers les uns et les autres et arrive à surmonter le passé pour vivre paisiblement et ensemble de nouveau. Nous devons admirer ceux et celles qui œuvrent pour la réconciliation. Nous devons suivre leur exemple. Qu'il est encore plus beau d'entendre ces paroles de la Bible. Dieu a réconcilié le monde à lui, par le Christ. Ou encore cette exhortation qui s'adresse à chacun. Acceptez d'être réconcilié avec Dieu. Un jour, dans le jardin d'Éden, tout a été perdu. Mais Dieu, sur la croix, a tout redonné en Jésus-Christ et il est dorénavant possible de se réconcilier avec lui.
Le plus beau jour de ma vie fut lorsque j'ai accepté d'être réconcilié avec Dieu. Nous allons revenir sur ce sujet de la réconciliation la prochaine fois. Mais en attendant, nous vous implorons d'accepter sa réconciliation offerte en Jésus-Christ et de l'accepter aujourd'hui. Alors, je vous dis au revoir.
Au revoir et à bientôt.